Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire globale de l'émergence du capitalisme. Et pour parler de cette histoire globale de l'émergence du capitalisme, nous sommes avec Benjamin, étudiant en sciences sociales. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'est proposé de faire cette émission? Parce que l'histoire de l'émergence du capitalisme n'est pas un sujet neutre, c'est un sujet historique où il y a des enjeux politiques particulièrement importants. Moi, j'en citerai personnellement deux qui me paraissent importants. C'est que, un, l'histoire de l'émergence du capitalisme s'implique de savoir, de définir ce que c'est que le capitalisme, et trop souvent, l'histoire de l'émergence du capitalisme a été faite d'une telle manière que le capitalisme a été naturalisé comme quelque chose qui aurait finalement toujours existé, ou au moins qui aurait existé depuis 5000 ans, dès qu'il y a un peu de monnaie, un peu de commerce, un peu de division du travail. Et contre ça, on aimerait proposer une histoire de l'émergence du capitalisme qui se base sur une définition qui dénaturalise le capitalisme, qui en fait quelque chose de beaucoup plus spécifique et qui du coup est d'autant plus aisément, entre guillemets, dépassable, ou au moins dont on peut plus facilement se débarrasser en termes d'imaginaire comme quelque chose qui serait indépassable. Une deuxième chose qui paraît importante, ça c'est quelque chose de plus classique, c'est que l'histoire de l'émergence du capitalisme, c'est là où on voit le mieux la violence, le caractère non naturel finalement, de ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire, c'est le moment où le salariat est massivement imposé, et alors qu'aujourd'hui, ça apparaît comme une condition, bon, certes, beaucoup de gens admettront que c'est pas hyper joyeux d'aller tous les jours au boulot, malgré tout, ça a été beaucoup plus incorporé et intégré, alors que la résistance à l'instauration du salariat pendant la période d'émergence du capitalisme, globalement, on va dire, autour du 15e au 19e siècle, on voit encore plus comment est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé aux gens, qui a été ressenti comme extrêmement violent. Et ça, c'est pour ce qui est du salariat. Et la troisième chose, troisième enjeu politique d'une histoire globale de l'émergence du capitalisme, c'est de voir son articulation avec d'autres formes d'oppression qui existent encore aujourd'hui et qui ont été très importantes dans l'émergence globale du capitalisme, c'est notamment la question de l'esclavage, quoi, qui aujourd'hui est encore très importante puisqu'on sait qu'il y a encore aujourd'hui des dizaines de millions d'esclaves à travers le monde. Benjamin, est-ce que tu verrais d'autres enjeux politiques
Ouais, peut-être une ou deux de plus, qui est la question de l'environnement, d'une part, le rapport entre l'émergence du capitalisme et l'entrée dans une ère spécifique de destruction de la vie. Également, la question des rapports de genre. Quel rapport a le patriarcat avec l'émergence du capitalisme? Parce que c'est quelque chose qui précède le capitalisme et que le capitalisme vient modifier. Voilà. Ensuite, sur la question de la résistance au salariat, passé l'émergence du capitalisme, ce serait intéressant de reprendre une autre discussion à Boltanski et Chiappello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, parce qu'ils s'intéressent en fait au fait que, en tant que tel, l'accumulation du capital ne fournit pas les justifications qui permettent aux acteurs de s'engager dans l'activité salariale. Et donc que le capitalisme doit toujours produire également des justifications, mais qui le contraignent en retour, partiellement. Et dans certaines conditions historiques, notamment après les années 70, il arrive à se délier de toutes ses nécessités et à se déplacer tel que les acteurs ordinaires n'ont plus de prise sur le manque de justification de la participation à l'accumulation du capital. Et un dernier truc qui peut nous faire une transition de tête sur le point suivant, qui est que effectivement c'est un gros enjeu politique, la question de l'émergence du capitalisme. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment on en fait le récit? Parce que d'un côté, on aurait dans beaucoup de récits traditionnels de l'historiographie une espèce de forme de vie en société qui serait toujours à l'état latent, mais que l'exceptionnalisme occidental viendrait pleinement développer comme ça. Donc avec d'un côté quelque chose de naturel, mais que personne n'arrive à faire, à part les occidentaux, dans des conditions exceptionnelles. Ce qui pose évidemment des gros problèmes politiques quant à la capacité d'action des non-occidentaux et quant à la naturalité des formes de vie capitalistes.
Oui, effectivement, ça c'est tout le problème du grand récit qui domine un peu, qui a dominé l'historiographie traditionnelle de l'émergence du capitalisme, qui se base en fait sur un ouvrage qui a été vraiment central, qui est La richesse des nations d'Adam Smith, donc qui a été écrit en 1776 en Écosse, parce que donc Adam Smith était un grand propriétaire terrien écossais. Donc évidemment, il était situé socialement et il n'allait pas faire le même récit de l'émergence du capitalisme ou de ce que c'est que le capitalisme qu'un ouvrier ou un artisan anglais de la même époque. Globalement, ce grand récit, c'est quoi? C'est que finalement, le capitalisme n'est que le prolongement naturel du troc, d'abord, ensuite de la monnaie qui serait simplement une espèce de transformation commode du troc, et ensuite cette monnaie donc qui permet du coup l'accroissement des échanges, parce qu'il y a une tendance inhérente à l'humanité à l'accroissement des échanges, et du coup les gens pour pouvoir échanger plus vont se spécialiser. Et donc ça va être le fameux concept de division du travail. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont fait du troc. Ensuite, pour faciliter les échanges, ils ont inventé la monnaie. Ils ont du coup approfondi la division du travail, qui elle aussi serait immémoriale. Et finalement, le capitalisme, ce serait simplement le prolongement de cette expansion, toujours poursuivie, de l'échange, de la monnaie, et de la division du travail. Et donc, voilà, globalement, c'est ça le grand récit des Lumières, pour le coup, de ce que c'est que l'émergence du capitalisme. C'est-à-dire que finalement, le capitalisme n'est que, d'une certaine manière, le stade suprême de la nature humaine, on pourrait dire. Et ça, ça a été repris par énormément de gens, à commencer au 19e siècle par Marx et Engels eux-mêmes, qui ont à un moment repris cette idée, notamment dans l'idéologie allemande en 1845, où ils ont repris l'idée finalement que pour ce qui est de l'émergence historique plus spécifique du capitalisme, le capitalisme, donc qui avait, oui, donc eux ils parlent eux-mêmes de formes antédéluviennes du capital, et donc à un moment ces formes antédéluviennes du capital qui s'étaient jamais développées jusqu'au point d'atteindre le capitalisme parce que dans l'Antiquité, il y avait l'esclavage qui bloquait l'émergence du salariat. Enfin voilà, ils cherchent tout un tas d'explications. Et ils voient qu'au Moyen-Âge, il y a, à partir du XIIe siècle, un développement progressif des villes qui sont libérées donc des contraintes féodales. Un développement du commerce ville-campagne, mais aussi du commerce plus général. Donc un développement de production qui recourt partiellement au travail salarié, un développement du profit, l'apparition d'une bourgeoisie, entre guillemets. Donc on verra que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et finalement, l'essor du capitalisme, chez Marx et Engels eux-mêmes, devient cette espèce de développement, très finalement, ils reprennent l'explication de Smith, une espèce de développement naturel des villes, du commerce, du profit, de la monétarisation, du salariat et de la bourgeoisie, qui se heurte à des obstacles extérieurs, qui sont les obstacles du féodalisme. Voilà. Et donc, du coup, c'est leur fameuse idée que le capitalisme se développe dans les interstices du féodalisme.
Comme s'il y avait une espèce de pulsion vitale que viendrait gêner des contraintes extérieures.
Exactement. Et du coup, finalement, le capitalisme, du coup, dans ce récit-là, apparaît comme quelque chose de naturel, alors qu'au contraire, et ça, c'est tout le récit smithien, hein, d'ailleurs, hein, alors qu'au contraire, finalement, le social, ce serait les contraintes qui empêcheraient cette tendance inhérente à la nature humaine et à la société humaine de développer le capitalisme, et donc le féodalisme serait une espèce de, voilà, d'un ensemble de contraintes sociales artificielles. Le capitalisme ne serait pas une construction sociale, mais par contre, le féodalisme, lui, l'était. Et à un moment, les fameuses révolutions bourgeoises permettraient, donc parce que la bourgeoisie, du coup, dans ce récit, même chez Marx et Engels, dans l'idéologie allemande, a un rôle progressiste, permettrait donc de lever ces obstacles du féodalisme, permettrait le développement du capitalisme, voilà, par la fin de tous les obstacles féodaux. Et à partir de là, il y aurait un développement des forces productives, etc., etc., qui, dans le récit smithien, c'est la fin de l'histoire, quoi, finalement, le capitalisme. Alors que, et dans la variante, disons, de Marx et Engels, en 1845, c'est ce qui va permettre, donc malgré tout, le capitalisme a un rôle progressiste dans l'histoire, c'est ce qui va permettre de passer ensuite au socialisme et ensuite au communisme à travers, grâce au développement des forces productives qui est permis par le capitalisme, quoi. Et après eux, et jusqu'à aujourd'hui, ce grand récit a été repris par plein de gens. Et notamment, plus récemment, par des gens comme Henri Pirenne, donc qui était un historien du Moyen-Âge. Lui, il a écrit dans les années 1920-1930. Henri Pirenne, dans les années 1920-1930, même s'il ne fait pas directement une histoire de l'essor du capitalisme, identifie l'essor du capitalisme à l'essor du commerce et des villes. Et lui, il identifie ce qui a empêché, ce qui a finalement été le facteur, l'obstacle, ça a été parce que l'Antiquité, ça a amené vers ça pour lui, ça a amené vers le capitalisme. L'obstacle, ça a été les invasions musulmanes. Donc bon, on est dans le contexte des années 20 et 30, on peut dire qu'il y a peut-être un lien. Voilà. Et pourtant, il est toujours réédité aujourd'hui, alors que sa thèse est quand même vraiment très très problématique, quoi, de tout attribuer aux invasions arabes. Ensuite, ça a été aussi développé par un historien espagnol qui a écrit un bouquin qui s'appelle sur la révolution commerciale du Moyen-Âge et qui, en gros, lui développait que, voilà, dans les villes, il y avait eu, dans les villes du Moyen-Âge, il y avait eu un essor du commerce, du profit, etc., etc. Et lui attribue vraiment explicitement un rôle progressiste à la bourgeoisie. C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie contre le féodalisme qui a permis le développement des villes et tout ça. Et donc lui, il lit vraiment la bourgeoisie, entre guillemets, des villes du Moyen-Âge. Alors qu'en vrai, bourgeois, juste pour préciser les choses, ça veut dire simplement, c'est un statut juridique, ça veut dire qu'on fait partie d'une ville, d'un bourg. Et ça n'a aucune connotation, je veux dire, on peut être un bourgeois de Calais et en vrai être juste un petit artisan, et du coup, lui, il tresse une espèce de fil généalogique de cette bourgeoisie médiévale jusqu'à la bourgeoisie industrielle, en espèce de, voilà, c'est cette bourgeoisie qui a permis le développement des forces productives, etc., etc. Et donc, mais lui, il reste libéral, hein, c'est pas pour aller vers le socialisme ou le communisme, mais c'est très chouette, quoi. Voilà, et ça a été repris jusque maintenant par quelqu'un comme Henri Heller, qui est un historien marxiste états-unien du 20e et du 21e siècle, qui lui reprend cette idée, voilà, que finalement le capitalisme se développe à partir du Moyen-Âge et que permet vraiment son développement plein, c'est les révolutions bourgeoises, en France 1789, en Angleterre 1640, etc., etc.
Ouais, en France, on a cette version avec Philippe Norel, pour qui, en fait, la question de l'émergence du capitalisme, c'est simplement celle de sous quelles conditions est-ce qu'il y a une croissance autant entretenue qui peut émerger, qui ne va pas être interrompue par un déclin brutal juste après. Donc il identifie plusieurs occurrences dans la Chine entre le 10e et le 15e, une première efflorescence mais qui ne pouvait pas être autant entretenue. Il y a d'autres historiens qui identifient d'autres occurrences à d'autres époques. Mais vraiment la question c'est à quel moment est-ce qu'il y a la levée des obstacles. Donc même si c'est plus fin parce que il voit pas forcément ça comme quelque chose qui empêche la croissance d'avoir lieu, il y a des obstacles à cette croissance, et lui ce qu'il ajoute simplement c'est qu'il y a aussi des choses qui la favorisent. Donc c'est simplement, au lieu d'avoir un pouvoir simplement négatif qui vient réprimer les pulsions économiques primaires, t'as aussi un pouvoir productif un peu des rationalités économiques.
Ouais, ouais, c'est effectivement, on voit quand même que ce récit il est extrêmement prégnant et il témoigne tout simplement du fait que ce soit de Adam Smith à nos jours, la plupart des historiens naturalisent le capitalisme parce que c'est la forme de société dans laquelle ils vivent et que du coup forcément ils ont tendance à voir cette forme de vie comme la seule forme de vie possible, la seule forme de vie souhaitable parce que sinon ce serait une espèce de retour à la barbarie, au troc, etc.
Et puis en plus avec une justification éventuelle qui peut être celle d'un téléologisme mais assumé, en disant voilà, on vise à faire l'histoire du capitalisme, donc on va regarder l'histoire à travers les lentilles de qu'est-ce que c'est le capitalisme. Ce qui évacue de fait les contributions non capitalistes à l'émergence du régime de production capitaliste.
Ouais, effectivement, la question de la téléologie, du coup, pour préciser un peu ce concept, c'est l'idée que finalement l'histoire c'est le déroulement linéaire du début jusqu'à la fin, où on a une espèce d'embryon à la base qui serait cette nature humaine portée vers l'échange, le troc, etc. Et puis l'histoire ne serait que l'espèce de déroulement. Téléos en grec, c'est finalement ce qui a une fin.
C'est-à-dire, c'est tendre vers une
c'est
fin.
C'est tendre vers une fin. Ouais. Et du coup, l'histoire tendrait vers le capitalisme depuis le début, depuis cette espèce d'embryon basé sur la nature humaine. Et du coup, c'est une vision qui a été théorisée notamment par Hegel. Sous une forme très philosophique, quoi, mais où il y a différents stades. Et c'est d'ailleurs une version qui a été reprise aussi par le marxisme. Et c'est une vision qui est quand même assez problématique, puisque finalement, on a une espèce de... Alors, eux, l'histoire tendrait vers le communisme. Bon, c'est mieux déjà que l'histoire tend vers le capitalisme. Mais bon, jusque maintenant, en tout cas, elle a tendu vers le capitalisme. Et du coup, bon, bah, c'est quand même assez problématique comme vision, notamment voilà parce que ça reparle voilà d'une espèce de nature humaine et ça naturalise vraiment le capitalisme. Alors contre ça, il y a des historiographies qui ont proposé une définition beaucoup plus spécifique du capitalisme qui le dénaturalise complètement, même si on verra qu'il y a des limites. Et ici je parlerai donc du marxisme politique, qui est donc une historiographie et une théorie qui se développe à partir des années 1970, à partir d'un historien qui s'appelle donc Robert Brenner, et qui va critiquer cette vision du capitalisme comme étant une tendance naturelle de l'humanité qui part avec le développement des échanges, le développement du commerce et le développement des profits, etc. Et lui, il va critiquer donc ce que Hélène Nixinsoud a appelé le modèle de commercialisation de l'émergence du capitalisme. C'est-à-dire, il va dire non, le capitalisme ce n'est pas le produit du développement du commerce, de la monnaie, etc. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique et qui, du coup, n'a pas ne se heurte pas à des obstacles artificiels comme le féodalisme, mais qui au contraire procède d'une dynamique très spécifique qui est la dynamique du féodalisme anglais à partir de 1066. Je vais aller relativement rapidement parce qu'on a déjà évoqué cette question dans une autre émission avec William qui est passé justement il y a quelques semaines. Mais pour résumer le propos, les spécificités du féodalisme anglais auraient fait que les seigneurs anglais, au lieu de se contenter de simplement extorquer à leurs paysans leur récolte sous une forme monétaire ou sous une forme en nature, peu importe, ou sous la forme de corvée, aurait opéré à partir de 1350 un tournant commercial, parce que ils avaient des pouvoirs sur les terres qui étaient spécifiques et uniques à l'Angleterre, qui étaient liés au contexte de la conquête en 1066. Ils avaient des pouvoirs extraordinaires sur les terres qui leur permettaient de s'approprier. Déjà, ils avaient des domaines beaucoup plus importants que les seigneurs français. Globalement, on n'avait pas de domaine vraiment en propre et qui se contentaient surtout, à partir du Moyen-Âge, de ponctionner les récoltes de leurs paysans sous différentes formes. Au contraire, en Angleterre, ils avaient déjà des terres très importantes. Ils sont allés en prendre encore plus à travers le processus qu'on appelle les enclosures. Donc, ils se sont appropriés les terres communes et ils se sont mis à produire massivement pour d'abord, dans le cadre du féodalisme, pour les marchés extérieurs, le marché de la laine, à destination donc des Flandres. Et ensuite, ils se sont mis, comme pour tout un tas de raisons, il y avait une unification politique de l'Angleterre et une centralité de Londres en Angleterre, ils se sont mis à produire massivement pour le marché de Londres. Ils sont devenus dépendants du marché. Et donc, cette dépendance de l'aristocratie au marché a fait que ils ont dû progressivement chercher à expulser leurs paysans de leurs terres pour devenir plus productifs et plus compétitifs, se débarrasser finalement de toutes les contraintes, entre guillemets, des relations de dépendance entre seigneurs et paysans. Donc ils ont cherché à les expulser, et en 1640, ils ont réussi, pendant la Révolution anglaise, qui est un moment assez important dans tout ça, à affirmer un droit de propriété absolu sur leurs terres, qui leur a permis de se débarrasser de la paysannerie, progressivement, hein, et à la place de se transformer en propriétaires capitalistes, qui, donc au départ, ils prenaient en charge directement une espèce de production capitaliste, où ils étaient contraints par le marché d'améliorer leur productivité, leur compétitivité, etc., etc., parce qu'ils étaient tous en concurrence les uns avec les autres. Et ensuite, ils vont louer leurs terres en fonction des prix du marché à des fermiers qui, eux, vont recourir à une main-d'œuvre salariée. Et c'est comme ça que naît vraiment le salariat en Angleterre. Et ensuite, cette logique, elle s'étend à travers l'industrialisation. Et voilà, cette histoire, finalement, elle dénaturalise complètement le capitalisme parce que elle pose des conditions très spécifiques à l'émergence du capitalisme, qui sont, tout d'abord, pour que le capitalisme émerge vraiment, le capitalisme, c'est pas juste une société qui repose sur l'échange, sur la monnaie, ou même sur, à la marge, des formes de salariat, mais c'est une société qui est basée sur une dépendance généralisée des acteurs au marché, tout d'abord, de 1. Donc là, on voit que les aristocrates anglais sont dépendants du marché. Les paysans qui se sont fait expulser, du coup, ils sont dépendants du marché pour leur survie parce qu'ils n'ont plus accès à des moyens de production. Et donc, du coup, ils deviennent salariés. Les paysans qui restent et qui arrivent quand même à payer le prix de l'allocation de la terre, ils sont dépendants du marché pour produire suffisamment de marchandises pour ne pas se faire expulser pour dette, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur location. Et voilà, les fermiers capitalistes sont dépendants du marché aussi pour faire leur profit. Donc on voit, il y a une dépendance généralisée vis-à-vis du marché des acteurs. Ça, ce serait la première condition. La deuxième condition, ça serait, de l'émergence du capitalisme, ça serait l'existence d'un marché unique, relativement étendu, qui fait qu'il y a une dynamique de compétition généralisée, tel qu'on l'observe aujourd'hui dans notre société. Alors là, la concurrence est mondiale. En Angleterre, pour la première fois, il y a une concurrence nationale qui va s'instaurer. Alors qu'en France, cette concurrence nationale n'existe pas, parce que les marchés sont fragmentés par des barrières douanières, par l'éloignement géographique, les coûts de transport, enfin tout un tas de choses qui en France ne vont disparaître qu'à partir de la Révolution française. La dépendance générale des acteurs, pareil, on ne la retrouve pas en France, parce que les paysans ont les terres, pratiquent une forme d'autosubsistance assez large jusqu'au 19e siècle. Et ça, c'est dans une autre émission qu'on a fait avec William. Et par exemple, pourquoi est-ce que le capitalisme n'a pas émergé en Chine au 18e siècle? Eh bien, c'est notamment parce que la paysannerie avait les terres et du coup, elle n'était pas contrainte par les forces du marché de produire toujours plus, de s'insérer dans une dynamique de compétition généralisée, etc. Et Du coup, la troisième condition, mais qui va de pair avec la dépendance généralisée, c'est quand la majorité de la population masculine, parce que évidemment le capitalisme va de pair avec le patriarcat, et l'exclusion des femmes des activités qui sont socialement valorisées. Ça, c'est, on renvoie là-dessus à l'émission qu'on a fait sur Caliban et la sorcière de Silvia Federici. Eh bien, c'est la salarisation massive de la population. C'est-à-dire que là, en France, le salariat, bien sûr, il existe même au XVIIIe siècle, mais il n'est pas la principale forme de reproduction de la majorité de la population. La principale forme de la majorité de la population, c'est les artisans qui sont dans des corporations, où donc ils ne sont pas salariés, mais ils sont propriétaires des moyens de production, et les paysans qui sont eux aussi propriétaires de leurs moyens de production. Donc voilà, pour donner un tableau des apports du marxisme politique, et notamment de Brenner, qui ensuite va être repris par des gens comme Hélène Mexinsoud. Du coup, ce que permet ce type d'histoire du marxisme politique, c'est que le capitalisme cesse d'être une espèce de tendance naturelle qui aurait toujours existé et qui, finalement, à un moment, se développe parce qu'il est libéré des obstacles du féodalisme. Enfin, d'abord en se développant dans les interstices du féodalisme et puis après en se libérant, finalement, de ses contraintes extérieures. Et au contraire, là, on voit que le capitalisme, c'est quelque chose de pas du tout naturel, puisque c'est le produit d'une dynamique très spécifique en Angleterre, et que le capitalisme, c'est quand même la dépendance généralisée de tous les toutes les classes sociales au marché, une dynamique de compétition généralisée entre ces acteurs, bon, au sein du marché du travail ou au sein ou entre capitalistes, et une salarisation très très avancée de la société. Et donc là, on voit que, et c'est finalement c'est ça, notre société, c'est ça. C'est pas le fait qu'il y ait du commerce à la marge parce que on va échanger ses œufs contre des carottes. C'est le capitalisme. C'est pas ça aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est une compétition généralisée sur le marché du travail, des formes de crise cyclique parce qu'il y a une compétition généralisée à un niveau mondial, c'est une dépendance quasi totale au marché. Globalement, on a quand même très peu de moyens de subsistance à part ça. Et on vit dans un marché global qui met en compétition l'ensemble des êtres humains. Même si c'est de manière différenciée, qu'on soit capitaliste ou prolétaire, ça c'est clair. Mais voilà, on voit du coup finalement que le marxisme politique, il permet, avec son récit de l'émergence du capitalisme, de voir que le capitalisme, c'est quelque chose de très spécifique, qui est pas du tout naturel et qui est très violent. Parce que là, on voit quand même dans leur récit, c'est pas la libération des énergies humaines, mais c'est l'expropriation violente, l'expulsion des terres de la paysannerie, la dépendance au travail salarié, l'obligation finalement de vendre sa force de travail sur un marché, d'aller travailler dans des fabriques de 5h du matin à 8h du soir. Enfin, on voit finalement que l'émergence du capitalisme, c'est quelque chose de spécifique qui arrive en Angleterre et dans des conditions très particulières de violent. Voilà. Et donc finalement, c'est beaucoup plus en prise finalement avec notre réalité actuelle. Quoi. Alors après, c'était le but de cette émission, c'était de dire que ce récit il est extrêmement intéressant, mais le problème c'est qu'il est quand même beaucoup trop centré sur l'Angleterre. Et il parle finalement quasiment que de l'Angleterre. Et même si je reste attaché à l'idée que le capitalisme il naît en Angleterre, il n'est pas en Angleterre de manière autarcique. Mais il...
C'est même carrément une perspective vraiment insulaire, quoi. C'est ce qui se passe sur l'Angleterre physiquement et pas au niveau impérial.
C'est ouais. Ça. Donc c'est vraiment, c'est même pas l'Angleterre et ses colonies, c'est vraiment l'Angleterre tout seul. Et au contraire, on pense que c'est important de faire une histoire globale de l'émergence du capitalisme parce que, notamment pour aujourd'hui montrer son articulation avec des formes d'oppression globale. Parce que finalement, le marxisme politique ne relie pas ça à l'émergence du patriarcat, alors qu'on pourrait le faire, on l'a déjà fait dans l'émission avec Caliban et la sorcière, on ne le refera pas ici, mais aussi avec l'esclavage, avec la question de la colonisation du monde, enfin voilà, il y a un besoin, clairement, avec la subordination des périphéries, de ce qui va devenir des périphéries à ce qui va devenir des centres, notamment l'Angleterre, on voit qu'il y a besoin d'une histoire de l'émergence du capitalisme qui soit peut-être d'abord qui parte effectivement de l'Angleterre, mais qui soit où le capitalisme anglais, et bon d'abord le féodalisme anglais, puis le capitalisme anglais, est interconnecté avec le reste du monde. Et on le voit bien dans le féodalisme anglais que, bah, par exemple, si les aristocrates ont pu se tourner massivement vers des productions commerciales avec la crise du féodalisme après 1350, c'est précisément parce qu'il y avait une demande massive de laine par des industries non capitalistes en Europe continentale et notamment dans les Flandres. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a besoin d'une histoire, certes, qui reste spécifique du capitalisme et qui est interconnectée. Et on voit bien aujourd'hui que le capitalisme, de toute façon, repose sur une interconnexion généralisée des sociétés.
Peut-être une autre limite qui va avec ce problème de l'articulation. On pourrait la comprendre à partir du problème de l'État dans l'explication de l'émergence du capitalisme chez les marxistes politiques, qui est qu'il est à la fois, en fait, il y a une spécialisation des moyens de coercition dans la sphère publique et une spécialisation des moyens d'extraction du surplus dans la sphère économique. Donc il y aurait ces deux sphères qui se séparaient un peu comme ça. Ce qui permet aux marxistes politiques de faire une dichotomie entre les modes d'exploitation coercitifs politiques et économiques. Donc le capitalisme serait caractérisé par une dominante économique. Alors que, en fait, quand on regarde les études micro-historiques sur l'Angleterre de l'époque, montrent bien que l'État avait la main particulièrement lourde pour imposer une forme de vie capitaliste, notamment avec l'imposition de l'impôt, qui venait en fait remplacer les formes d'endettement locales précédentes. Et ce qui pose donc aussi la question de l'articulation entre la dynamique spécifique de l'Angleterre et la dynamique des pays occidentaux proches. C'est-à-dire que si on peut plus simplement dire voilà, en Angleterre, c'est les moyens d'extraction économique qui ont pris le devant, ça complexifie aussi la question de est-ce que simplement c'est des états féodaux à côté qui n'ont pas réussi à faire dominer l'économie, ou est-ce que l'articulation est plus complexe que ça?
Ce qui était intéressant, disons, dans cette thèse du marxisme politique, c'était de clairement dire bah non, le capitalisme, c'est pas l'exploitation, c'est une certaine forme d'exploitation qui passe par le surtravail, par le salariat, par le profit, alors que dans les autres formes de société, c'est très différent, et du coup, c'est pas dès qu'il y a de l'exploitation, il y a du capitalisme. Mais par contre, là où ils vont trop loin, c'est qu'ils coupent les ponts entre les deux, et surtout, en réalité, c'est pas si tranché que ça. Peut-être, moi, je serais assez en faveur d'une espèce de forme de dualisme souple là-dessus. Parce qu'en réalité, par exemple, si on suit Jean-Yves Grenier dans son livre « L'économie d'Ancien Régime », bah si, il y a des formes d'exploitation économique en France, clairement, au XVIIIe siècle. Par exemple, les paysans qui sont obligés de louer leurs terres à des propriétaires bourgeois, bah clairement, il y a une exploitation économique, il n'y a pas de coercition. Et pourtant, Jean-Yves Grenier montre bien que c'est pas une société capitaliste. Et du coup, c'est pas tellement ce qui caractérise pas le capitalisme, c'est pas en soi l'exploitation économique versus exploitation politique, mais c'est le fait que cette forme d'exploitation économique, enfin l'exploitation économique, elle prend la forme d'une concurrence généralisée et dans un marché relativement unique et, avec une dépendance totale au marché, ce qui n'était pas le cas du coup des paysans français, qui n'étaient pas dans un marché unique avec une compétition généralisée,
unifié surtout.
Voilà, et pas dans un marché unifié français, et qui n'étaient pas intégralement dépendants de l'allocation de ces terres. Et surtout, ces terres, ils les louaient non pas pour les vendre au marché, mais pour l'autosubsistance. Donc là, effectivement, un des problèmes, et réciproquement, à l'inverse, du coup, il y a des formes d'exploitation économique qui ne sont pas capitalistes, même si elles y ressemblent un petit peu, mais elles sont pas, il y a des formes d'exploitation économique qui ne sont pas capitalistes, et inversement, des formes d'exploitation politique peuvent jouer un rôle décisif dans le cadre du capitalisme. Je pense notamment à l'esclavage au sud des États-Unis au 19e siècle. Charles Post, dans The American Road to Capitalism, qui est un livre très intéressant, qui est un marxiste politique, défend l'idée que le sud des États-Unis n'était pas capitaliste, parce que l'esclavage n'est pas un rapport de production capitaliste, puisque c'est pas du salariat. Moi, je suis globalement d'accord avec le fait que ce n'est pas le rapport maître-esclave, ce n'est pas un rapport de production capitaliste. D'ailleurs, ça existait dans plein d'autres sociétés qui n'étaient pas capitalistes. Donc, en soi, ce n'est pas un rapport de production capitaliste. Mais le problème, c'est que, pour autant, ça s'insère dans une totalité qui était capitaliste. C'est-à-dire que le capital dont avaient besoin les planteurs au sud des États-Unis, il venait d'où ? Il venait massivement d'Angleterre. qui était une société capitaliste selon les critères même du marxisme politique. Les esclaves y venaient à travers essentiellement des bateaux, des marchands d'esclaves britanniques, qui eux clairement étaient des entreprises capitalistes, puisqu'il n'y avait même plus de monopole à cette période-là, quoi. Et les débouchés des productions de coton par ces esclaves étaient le marché capitaliste anglais, et c'est ce qui a permis la révolution industrielle. Donc clairement, on voit bien qu'une forme d'exploitation politique comme l'esclavage, qui est non capitaliste, peut jouer un rôle décisif dans, non seulement peut jouer un rôle décisif dans l'essor du capitalisme, en l'occurrence de la révolution industrielle quand même, mais en même temps est complètement inscrit dans une totalité capitaliste. Et c'est là où moi je serais quand même en faveur d'un assouplissement clair du dualisme du marxisme politique. C'est que sinon on fait une espèce de séparation artificielle entre l'esclavage au sud des États-Unis et la révolution industrielle en Angleterre, ce qui n'est absolument pas tenable. À la limite, on peut faire un dualisme comme ça entre le nord et le sud des États-Unis, comme le fait Charles Post. Peut-être que c'est questionnable, mais enfin en tout cas, il essaie de démontrer que c'était vraiment deux dynamiques très différentes. Je veux bien le croire, mais alors là, clairement, pour le coup, le sud des États-Unis est complètement inscrite dans le capitalisme anglais et d'ailleurs obéit donc fait partie de ce marché unique anglais, obéit bien à des contraintes de compétition généralisée. Du coup, ils sont obligés, parfois le prix du coton baisse en fonction de cette compétition généralisée, du coup ils sont obligés d'augmenter l'exploitation des esclaves. Enfin, clairement, on peut pas faire une histoire autarcique de la révolution industrielle qui ne prendrait pas en compte cette forme d'exploitation non capitaliste qu'est l'esclavage, et qui pourtant était décisive et qui faisait partie de la totalité du capitalisme. Et tout ça, c'est très intéressant. On trouve ça notamment dans le bouquin de Sven Beckert qui s'appelle Empire of Cotton, et qui est assez intéressant, plutôt sur la partie empirique plutôt que sur la partie théorique, parce qu'elle est critiquable. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie de l'émission.
Il n'y a d'ailleurs même pas vraiment de partie théorique.
Ouais, il n'y a vraiment pas vraiment de partie théorique. Et je pense que clairement, il y a un problème avec cette vision du marxisme politique, d'une émergence un peu autarcique du capitalisme dans un seul pays. Un petit peu comme on parlait du socialisme dans un seul pays, il y a un petit peu ça. Et du coup, l'importance de la domination géopolitique du colonialisme, de l'esclavage, et on pourrait même parler du patriarcat, disparaît complètement. Et d'autre part, un des autres problèmes plus général de Brenner et de ses successeurs et successrices, c'est le fait qu'ils veulent montrer que le capitalisme, et là encore une fois, ils sont dans un dualisme qui est très classique en histoire, et finalement où ils reprennent des choses qui étaient dans le grand récit smithien, c'est que finalement, ils ont tendance, pour accentuer le caractère dynamique, compétition généralisée et tout du capitalisme, à dire que les sociétés non-capitalistes, il faudrait mieux dire non que pré, parce que finalement pré, ça, on rentre dans une vision très téléologique, que les sociétés non-capitalistes n'étaient pas dynamiques. Alors qu'en réalité, c'était des sociétés dynamiques, le féodalisme avait sa dynamique, la Chine du XVIIIe siècle avait sa dynamique, toutes les sociétés ont des formes de dynamique, et le meilleur exemple, c'est le fait qu'un des moteurs de la révolution industrielle, qui a poussé les manufacturiers anglais à développer les forces de production technologiques, à rationaliser le processus de production, à grouper les artisans dans ce qui est devenu des fabriques disciplinaires, etc., ben c'est la concurrence supérieure des textiles indiens, qui étaient pourtant produits de manière non capitaliste, enfin, c'était des producteurs qui possédaient leurs moyens de production, etc., qui passaient par des réseaux de marchands non capitalistes, et qui pourtant étaient plus compétitifs que les manufacturiers anglais de l'époque, qui faisaient des trucs de meilleure qualité et pas forcément beaucoup plus chers. Et donc là, on voit que il y a vraiment des limites à une explication uniquement centrée sur l'Angleterre, de l'émergence du capitalisme anglais lui-même d'ailleurs. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut vraiment une histoire globale de l'émergence du capitalisme, même si, pour des raisons à la fois politiques et historiques, il faut évidemment définir le capitalisme de manière spécifique pour le dénaturaliser, tout ça. Mais il faut aussi pour finir sur ces raisons politiques, l'articuler avec d'autres formes de domination qui coexistent avec le capitalisme depuis son émergence et qui continuent de coexister avec lui, le colonialisme, l'esclavage, le patriarcat, la subordination d'une partie du monde périphérique, entre guillemets, à des centres, etc. etc. Et donc, dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer de montrer qu'est-ce que peut nous apporter des historiographies qui, justement, pensent d'emblée, de manière globale, que ce soit l'historiographie des systèmes mondes, que ce soit l'histoire, ce qu'on a appelé l'histoire globale, ou l'histoire économique globale, plus spécifiquement, et ensuite la fameuse thèse de la grande divergence, qui sont que des récits qui critiquent le fait qu'on se critique l'anglocentrisme ou l'eurocentrisme des récits alors traditionnels de l'émergence du capitalisme et aussi du récit du marxisme politique de l'émergence du capitalisme. Donc là on va faire une pause musicale.
Dis-moi, est-ce un rêve ou la réalité? Notre errance improbable dans cette immensité. La balade s'est emballée il y a si longtemps que tout le monde a oublié le pourquoi du comment. Le comment du pourquoi du commun des mortels. La servitude volontaire et ses petites ficelles. Je te prêterai bien un ami si jamais ça se prête, mais ce n'est pas l'irouki brouki. Les mains dans les poches, la nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et nous n'oublierons personne. Imagination, que les étoiles se moquent bien de nos agitations, qu'elles se racontent le soir nos déboires en rigolant. On dit certaines même sont mortes de rire depuis longtemps. Et dit est-ce un fantasme ou la vérité que tes yeux m'avalent pour l'éternité. Je t'emprunterai bien ton joli petit pied pour oublier un instant sur quel pied danser. Brouki brouki. Les mains dans les poches, la nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et nous n'oublierons personne. Que nos amours, nos amitiés sont le meilleur bastion. Que malgré la grisaille de toutes nos prisons, un tremblement de chair éclate quand nous nous embrassons. Dis-moi, est-ce possible ou juste un délire de vivre un peu mieux ou carrément moins pire. Je veux dire par là une vie sans dictat comptable. Les plus belles choses de toute façon ne seront jamais rentables. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne. Rouki brouki, les mains dans les poches. La nuit est chaude, les corps frissonnent et l'orage approche. Nous dansons dans les rues et les pavés résonnent. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là et n'oublierons personne.